France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Outre-Atlantique, on la surnomme la jeune prodige de la physique. Forbes l'a classée parmi les 30 personnalités les plus influentes de moins de 30 ans. Sabrina Pasterski est notre invitée. Entre 12 et 14 ans, elle construit son propre avion et le pilote. Elle a même travaillé sur un prototype de vaisseau spatial capable d'emmener des humains sur Mars en moins de 33 jours. Cubano-américaine, elle fait ses classes au MIT, puis à Harvard, avec des passages à la NASA et au CERN. Puis, elle abandonne l'aérospatiale pour faire de la physique théorique sa priorité. À 33 ans, spécialiste des trous noirs, elle est l'une des pionnières de l'holographie céleste. Une approche qui tente de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique, deux théories fondamentales, jusqu'ici irréconciliables. Sabrina Pasterski réunifie la physique avec l'holographie. Sabrina Pasterski, bonjour.
Hi, thank you for having me. This is very sweet of you.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physicienne au Perimeter Institute, directrice adjointe de la collaboration Simon sur l'holographie céleste qui est au Canada. Grand merci d'être là et merci à vous, Barthaben, d'être notre interprète et notre voix française. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure, en podcast, et qui nous suivez également sur Blue Sky, car tous les jours on poste pour vous des sources, des liens supplémentaires, c'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Sabrina Pasterski, un mot d'abord sur votre parcours avant de parler de vos travaux. Vous êtes née en 1993 à Chicago. Vous êtes la fille de Maria Gonzalez, qui est d'origine cubaine, de Marc Pasterski, qui est avocat et ingénieur américain. Est-ce qu'enfant vous aviez déjà le goût des sciences?
Absolument. Je suis allé à l'école, comme beaucoup de jeunes, une école qui se spécialisait dans les cours, notamment dans le domaine des sciences. Donc oui, c'est arrivé très tôt dans ma vie.
C'est arrivé très tôt dans votre vie. Et vos parents vous ont encouragé dans cette voie?
Absolutely. So I think the fun thing is...
Tout à fait. Ils m'ont effectivement encouragé en me disant « Vas-y ». Lorsque j'étais très jeune, je voulais devenir chanteuse. À l'époque, j'aimais bien les Spice Girls. Je me rappelle, à l'époque, j'aimais chanter, je chantais. Alors, je vous avoue que mes parents m'ont moins encouragé à devenir chanteuse, mais les sciences, oui. Je me souviens que mes copains à l'école lisaient Harry Potter et moi je lisais d'autres choses. Je n'ai pas forcément grandi en rêvant de la science, mais j'étais plus intéressé par les choses que je pouvais réaliser, parce que je pouvais faire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait.
Votre père était lui-même pilote. Vous avez 9 ans lorsque vous prenez votre premier cours de vol. Et puis voilà, entre 12 et 14 ans, vous construisez vous-même un avion en kit. Alors comment on s'y prend pour construire un avion à cet âge-là? Grâce à Internet, comment avez-vous fait?
Alors, mon père n'était pas encore pilote à l'époque. Il est devenu pilote plus tard parce que, bon, on ne devient pas pilote du jour au lendemain. Mon grand-père avait un Cessna et voilà, mon père a passé son diplôme pour devenir pilote à ce moment-là, mais c'était plus tard. Donc, j'ai commencé à voler avec lui et j'étais vraiment très jeune et évidemment, ça me fascinait, j'arrivais aussi à faire des liens avec la science et je commençais déjà à faire des liens entre ce que je pouvais, à comment je pouvais utiliser ce que j'apprenais grâce aux avions et la science. L'un de mes héros, c'était Jamal Arkins, qui est un pilote, qui était pilote et qui était parti au Canada, qui avait fait des vols en solo. J'essayais de suivre un peu ce qu'il faisait. Je me rendais aussi dans des meetings aériens. J'ai rencontré un certain nombre de personnes et dans le domaine de l'aéronautique, et beaucoup de gens que j'ai rencontrés fabriquaient des avions en kit. Et je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Moi aussi, je devrais pouvoir le faire. Et voilà, c'est comme ça que tout a démarré.
Quelles sont justement les questions scientifiques que vous vous posiez face à la fabrication de ces avions et face à la conduite d'un avion ?
Je n'avais pas tellement de questions scientifiques. En fait, lorsque vous êtes dans un avion, vous voyez le monde différemment. Ce qui m'a intéressé principalement, ce sont les mentors, les personnes qui m'ont accompagné. Ce sont aussi un certain nombre de professionnels qui travaillaient dans le domaine de l'aéronautique, des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique, qui fabriquent des avions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que certaines personnes arrivaient avec très peu de ressources à construire des avions, pas forcément à but lucratif, des gens qui aimaient aussi la physique, et moi j'ai toujours aimé la physique, et c'était aussi des fans de science-fiction, et donc voilà, j'ai essayé de réunir un peu tout cela, voilà, c'est comme ça que ça a commencé vraiment.
D'ailleurs la FAA, la Federal Aviation Administration, a approuvé votre moteur, l'a baptisé la Sabrina O200A. À 14 ans, à ce moment-là, vous rêviez de devenir ingénieur aérospatial. Vous dites que vous étiez passionné de SF et vous travaillez aussi sur un prototype de vaisseau spatial pour Mars.
Alors, mon père était. Mes parents, tous les deux, étaient avocats. Donc, pas vraiment des avocats qui travaillaient pour de grands cabinets, ils travaillaient pour le gouvernement. Mais ils s'intéressaient beaucoup à la technique et également, ils travaillaient sur des sujets tels que la certification et... Donc, effectivement, à un moment donné, je me suis intéressé à cette idée de vaisseau spatial. Je baignais dans la technique. Mon père, vous l'avez dit tout à l'heure, était aussi ingénieur. Donc, je me souviens, il regardait souvent par-dessus mon épaule, regardait ce que je faisais. J'ai commencé avec des choses assez simples. Et j'avais aussi l'idée que, voilà, tout était possible. Donc, pourquoi pas un vaisseau spatial ?
D'ailleurs, je crois que vous en aviez parlé à des personnes de la NASA à 14 ans. Alors, que s'est-il passé ?
Je vais avoir du mal à vous raconter précisément ce qu'ils m'ont dit, mais je me souviens que je suis allé au Kennedy Space Center, j'étais très jeune, et c'était vraiment intéressant de voir. D'abord, les gens étaient extrêmement gentils, moi j'étais empli de rêves, j'étais jeune, mes parents, on l'a vu tout à l'heure, m'encourageaient beaucoup, donc j'avais un peu cette histoire à leur raconter, voilà.
Alors après un diplôme de l'Académie des mathématiques et des sciences de l'Illinois, puis un stage chez Blue Origin, l'entreprise aérospatiale de Jeff Bezos, à 17 ans, Sabrina Pastersky, vous êtes intégrée au MIT, la pépinière de Nobel du Massachusetts, mais vous changez de spécialité, vous vous tournez vers la physique. Pourquoi ce revirement ?
Alors, je pense que c'est encore une fois lié aux mentors que j'avais rencontrés. Donc, on a parlé de la science-fiction. J'admirais beaucoup les gens qui travaillaient dans le domaine de la science-fiction ou qui étaient à la frontière de la réalité, de ce qui était possible et la science-fiction. Et je me suis dit, mais je vais m'intéresser à la physique et il y a beaucoup de choses que l'on ne comprenait pas à la physique. Et je me suis dit, est-ce que moi, je peux contribuer à ma façon à la physique? Et puis, c'était intéressant aussi de faire autre chose que des avions. Ce n'était pas vraiment le sujet sur lequel j'avais envie de travailler. Donc, j'ai changé de cap.
Vous entrez ensuite à Harvard, au Centre des lois fondamentales de la nature. Votre thèse porte sur les implications des super-rotations et votre directeur de thèse n'est autre que Andrew Strominger, l'un des leaders de la gravitation quantique, un autre mentor.
So I think of string theory really as a tool. Je pense donc que la théorie des cordes est vraiment un outil. Ce n'est pas une question. Il existe de nombreuses questions différentes qui intéressent les physiciens, théoriciens et expérimentateurs. Celle qui m'a intéressé et à laquelle j'ai décidé de consacrer ma vie pour essayer de la comprendre est le problème de la gravité quantique. Et c'est, vous savez, un problème très profond. Il est là. La mécanique quantique et la relativité générale ne sont pas cohérentes sans autres éléments et sans un certain cadre. Ou du moins, en apparence, elles sont incohérentes. Et nous croyons que l'univers est cohérent. Nous disposons de preuves expérimentales irréfutables en faveur de la mécanique quantique et de preuves expérimentales irréfutables en faveur de la théorie générale de la relativité d'Einstein. Il doit donc y avoir un moyen de concilier ces théories. Et c'est un problème que nous devrons résoudre tôt ou tard. Je suis certain que nous pouvons le résoudre dans les 500 prochaines années. Et nous pouvons espérer le résoudre dans les 5 prochaines années. Mais vous savez, il est là. Il ne va pas disparaître.
Voilà, Andrew Strominger en 2023, rendu célèbre en 1996 pour sa dérivation de l'entropie des trous noirs à l'aide de la théorie des cordes. Sabrina Paslersky, quelle a été l'originalité de son travail à lui?
Alors, il a effectivement travaillé sur la théorie des cordes en essayant de réconcilier la théorie quantique avec la théorie de la relativité. C'était son travail.
Alors pourquoi vous, Sabrina Paslersky, vous avez obtenu votre doctorat en 2019 avec ce grand maître de la gravitation quantique. Pourquoi vous êtes-vous orienté justement dans cette voie-là de la physique qui est une voie particulière?
Alors, lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de la physique, je me suis posé tout de suite la question de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. La physique vous permet de limiter ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas en tant qu'ingénieur. Les questions que l'on se pose en physique sont comment peut développer des cadres cohérents. Donc, lorsque vous faites des expérimentations, l'idée, c'est d'essayer de trouver des implications, des explications plus simples pour expliquer des phénomènes et en mettant en place des cadres. Lorsqu'il y a un problème dans un cadre, ce cadre ne répond pas à ce dont vous avez besoin, vous développez un autre cadre. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, c'est de contourner un problème. Vous avez évoqué le sujet de l'unification des distances courtes et des distances longues. J'ai aimé cette idée de pouvoir aller chercher ailleurs, d'essayer de comprendre si on pouvait contourner les lois que nous connaissions.
En 2020, vous intégrez le prestigieux Perimeter Institute au Canada comme professeur à la tête du département d'holographie céleste, mais vous avez été cité par le magazine américain Forbes dans son classement de 2015-2017. Vous avez travaillé avec Boeing, le CERN, la NASA. Vous avez eu pas mal d'offres d'emploi du côté de la NASA, de Jeff Bezos aussi. Alors pourquoi avoir choisi le Perimeter Institute?
Oui, oui, effectivement, des offres d'emploi, j'en ai eu quelques-unes dans le domaine de l'aviation, dans le domaine académique, certaines universités, et j'aurais pu travailler pour une grande université. Ce qui m'intéressait dans l'Institut Perimeter, c'est de travailler sur la physique théorique. Vous avez des chercheurs qui travaillent pour cet institut dans le domaine de la mécanique, des chercheurs. Donc, ça vous permet d'avoir accès vraiment aux gens les plus extraordinaires, les plus formidables dans le domaine. Et c'est évidemment ce qui m'a intéressé. Imaginez un monde, le monde de demain, où la recherche, y compris la recherche académique, vous permette d'avoir accès à des missions tout à fait extraordinaires avec des personnalités tout aussi extraordinaires.
Voilà, vous consacrez exclusivement à la physique théorique. Avant de comprendre ce qu'est l'holographie céleste, faisons un point théorique. Dans quelle mesure les trous noirs sont-ils le laboratoire ultime pour tester une théorie quantique de la gravité? On y arrive.
France Bleu. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Écoutez France Culture et la voix de Sabrina Pasterski, jeune physicienne théoricienne prometteuse formée au MIT puis à Harvard. Elle explore l'holographie céleste pour tenter de proposer un dictionnaire mathématique qui réunirait différentes physiques. A-t-on trouvé le lien entre relativité générale et physique quantique ? On y viendra, mais d'abord, Sabrina Pasterski, vous êtes spécialiste des trous noirs. Pour les physiciens, ce sont des laboratoires virtuels parfaits.
Un trou noir, c'est un astre. C'est un astre, une boule de matière tellement condensée, tellement dense, et en conséquence avec un champ de gravité tellement grand que même la lumière ne peut pas s'en échapper. La lumière qui chercherait à s'en échapper retombe sur lui comme l'eau des fontaines, exactement, parce qu'elle est ramenée sur le trou noir par l'attraction puissante qu'il exerce.
La densité d'un trou noir dépend de sa masse, en fait. Plus un trou noir est gros, moins il est dense. Un trou noir qui aurait la masse du Soleil aurait à peu près 10 km de rayon. C'est vraiment tout petit. Toute la masse du Soleil concentrée dans 10 km de rayon, cela produit une densité fabuleuse, l'équivalent d'un grand pétrolier dans un dé à coudre, par exemple. C'est à peu près l'équivalent. Tandis qu'un gros trou noir, comme ceux qu'on observe au centre des galaxies, qui sont des trous noirs qui font 80 ou 100 millions de fois la masse du Soleil, peuvent avoir une densité beaucoup plus faible. Certains trous noirs peuvent avoir des densités qui sont inférieures à celles de l'eau, par exemple. Il y a toute la gamme possible des densités. Si vous me dites la masse du trou noir, je vous dirai quelle est sa densité. Il y a une relation simple entre les deux.
Voilà la voix de Hubert Reeves dans un enregistrement de 2005 par le label Frémo et Associés. Sabrina Pasterski, quelle est votre écoute de cette archive ?
C'est formidable, c'est formidable. Il est bien plus doué que moi pour faire des analogies. C'est formidable d'entendre comment il parle de la densité, comment il parle des trous noirs. Je n'aurais pas eu l'imagination qu'il avait pour en parler. La vraie question, c'est, y a-t-il des situations où on peut faire des hypothèses raisonnables et puis, lorsque vous arrivez au bout de vos hypothèses, vous vous rencontrez qu'il y a une erreur. Et c'est ce que Hawking a essayé d'établir. Vous dites, je pense avoir compris la théorie des champs, je pense pouvoir prédire un certain nombre de choses et j'applique cela et à ce moment-là, vous rencontrez des difficultés. La question du trou noir, comment il s'évapore et donc c'est ainsi que vous mettez fin à certaines hypothèses. Vous faites une expérimentation, vous essayez de vérifier leur cohérence parce que vous pensez savoir. Et c'est ce que j'applique à ma propre recherche aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'on a toujours cette théorie des cordes et on essaye de comprendre, d'utiliser aujourd'hui l'image avec cette approche holographique que vous évoquiez dans votre question.
On va tout de suite parler de cette approche holographique et aussi des travaux de Stephen Hawking, mais pourquoi justement les trous noirs sont-ils des objets très utiles pour tester une théorie quantique de la gravité ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que lorsque vous avez la réaction de la matière dans un champ restreint, que vous avez des horizons avec des signaux qui sont clairement établis, parfois des choses curieuses arrivent sur certains horizons. Est-ce qu'on a bien compris la géométrie de l'horizon sur lequel on travaille ou pas ? Et il y a cette notion théorique. Est-ce qu'on sait suffisamment entre ces champs de basse énergie pour résoudre ces problématiques avec les équations dont nous disposons? Donc il y a des horizons théoriques qui permettent d'arriver à des questions, ces grandes questions que l'on se pose en recherche, dans la recherche. Par exemple, Est-ce qu'une évolution va être unitaire? Il faut donc travailler sur l'évaporation, le sujet de l'évaporation de ces trous noirs. C'est assez compliqué, c'est ce sur quoi nous travaillons absolument tous les jours pour essayer de répondre à ces questions et ces questions de tension.
En effet, les trous noirs, ce sont cette grande masse dans une région très petite. Donc c'est d'une certaine façon le point de rencontre de la relativité générale et de la mécanique quantique. Ces deux théories irréconciliables. Quant à l'évaporation des trous noirs, en effet, c'est une théorie de Stephen Hawking qu'il a élaborée dans les années 70.
Ma contribution la plus significative et la plus connue est probablement ma découverte sur les trous noirs, qui ne sont pas totalement noirs, mais brillent comme des corps chauds. Tout le monde admet aujourd'hui que les trous noirs dégagent le rayonnement de Hawking.
Stephen Hawking sur Euronews en 2018, qui montre, qui s'intéresse aux effets quantiques qui se manifestent près de l'horizon des événements d'un trou noir et qui a démontré que malgré les principes de la relativité générale, un faible rayonnement s'échappe. C'est ça qu'on appelle le rayonnement de Hawking, c'est cette évaporation de trou noir.
L'idée, c'est de se poser comment la théorie quantique peut nous permettre de mesurer le comportement dans ce contexte d'évaporation de trous noirs. Dans quel état sommes-nous? Est-ce que c'est un état pur? Est-ce que c'est un état thermique? Et est-ce que ma matrice d'évolution est véritablement unitaire? Donc, on fait des hypothèses raisonnables qui peuvent nous faire réaliser qu'on se retrouve quelque part où on ne s'attendait pas, et donc on essaye de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, comment se fait-il que ce paradoxe soit apparu. Et en fait, il y a une lacune finalement dans la théorie. C'est ce sur quoi nous travaillons.
En effet, le paradoxe de l'information, c'est l'un des problèmes les plus profonds de la physique théorique. Sabrina Pastersky.
Absolument. Ce sont des questions complexes sur lesquelles on travaille depuis extrêmement longtemps. On a des théories, on essaye de travailler sur ces théories, et parfois on y arrive, mais parfois on n'y arrive pas, donc on change de cadre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on modifie le cadre pour essayer d'y arriver. Parfois on y arrive et parfois on n'y arrive toujours pas.
Voilà, alors les recherches de Stephen Hawking a mis à mal par exemple le théorème de la calvitie des trous noirs. Black holes have no hair, les trous noirs n'ont pas de cheveux. Entendez par là, un trou noir ne peut se définir que par trois paramètres, sa masse, sa charge électrique et sa vitesse de rotation. Les trous noirs de même masse, spin et charge sont exactement identiques les uns avec les autres et n'ont pas d'autres caractéristiques physionomiques. Et c'est dans ce cadre-là que votre papier, Sabrina Pastersky, a été cité par Stephen Hawking lui-même.
C'est ça. C'est assez amusant. J'étais à l'époque étudiante et je travaillais sur ces sujets-là précisément pour essayer de comprendre comment on pouvait décrire cet espace-temps dans un contexte ou dans un cadre holographique à très grande échelle. Et ma question, c'était de savoir si je pouvais développer un cadre sur les constructions que nous connaissions. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le sujet des symétries. Et notamment lorsqu'il y a ces questions d'horizon. Faut-il suivre ces degrés de liberté à très basse énergie? Bref, c'était le point de départ.
En effet, vous travaillez sur les symétries de l'espace-temps et votre article porte sur la mémoire électromagnétique, c'est-à-dire plus précisément.
Alors, l'idée, imaginons, vous avez une charge qui s'accélère, un radiosignal, par exemple, ou une antenne qui dégage une radiation. Et cette radiation, avec des équations classiques, vous pouvez mesurer une partie de cette radiation de par la nature de la charge qui va changer de vitesse, de vélocité. Dans la gravité, il y a une analogie, vous avez des masses entrantes qui rentrent en collision les unes avec les autres, qui génèrent des vagues gravitationnelles. Il y a donc une empreinte cinétique qui est universelle. Ce que l'on fait, ce que l'on va essayer de faire, c'est comment mesurer la cohérence. Et est-ce que ce que vous observez peut être testé? Est-ce que cela peut vous permettre aussi de comprendre comment elles sont mises en œuvre? Et cela ouvre également de nouvelles portes, de nouvelles questions, et ça nous ramène à la question de l'évaporation sur laquelle travaillait Hawkins.
Et pour tout comprendre justement à la théorie qu'on appelle le théorème de la calvitie des trous noirs, je vous invite, celles et ceux qui nous écoutent, à podcaster « Trous noirs chevelus, une théorie qui décoiffe ». À présent, les symétries de l'espace-temps, supertranslation, superrotation, peuvent-elles contenir la clé d'une gravitation quantique cohérente ? Restez avec nous. Physicals de The Glimmer sur France Culture, car nous nous entretenons tout au long de cette heure avec un jeune talent de la physique théorique qui tente de réunir les deux physiques, la relativité générale et la quantique. Sabrina Pastersky est notre invitée, physicienne au Perimeter Institute au Canada. On vient de revenir sur le parcours de cette chercheuse décrite outre-Atlantique comme un petit prodige au vu de son parcours académique, pionnière de l'holographie céleste. On a aussi parlé de votre directeur de recherche, Andrew Strominger, lui aussi pionnier. Alors, lui, il s'est intéressé en effet à des transformations, ce qu'on appelle des super-translations, qui opèrent sur l'espace-temps. Comment ça marche ? Ça marche grâce à des nouvelles particules, les gravitons soft. Alors, en quoi ça consiste, Sabrina Pastersky ?
Great. Okay, so there's kind of two notions of, like, I guess there was thinking about.
Alors, il y a deux choses. Lorsque vous allez au lycée et vous faites de la physique, on vous parle de collision élastique ou pas élastique, de collision et d'analyse de vitesse, de vélocité et de masse. Les questions qu'on se pose, on les met dans un cadre, quantitatif, et on fait des hypothèses notamment d'isolation. Sur de très longues distances, espace-temps, avec zéro constante cosmologique, chaque direction dans laquelle on va, de manière infinie, ne communique pas avec les autres directions. Donc il y a ce problème de symétrie, de translation. Imaginez une table, il n'y a rien sur une table, une table qui est absolument vide. Et vous avez ce vide dans tous les sens. Et donc, c'est là qu'on parle de gravitons à très basse énergie.
En effet, des gravitons soft et des photons soft qui sont tous d'énergie nulle, c'est ça, mais qui se distinguent les uns des autres par des moments cinétiques différents.
Absolument, c'est tout à fait ça.
Alors, votre domaine, Sabrina Pastersky, c'est que vous faites de l'holographie céleste. Alors, ce ne sont pas les hologrammes comme certains hommes politiques ou certaines stars. Il faut qu'on définisse ensemble cette discipline.
Alors, on essaie de comprendre la gravité quantique parce qu'il y a, des choses que l'on ne comprend pas. On travaille, on a un cadre pour les longs, la physique à courte distance, longue distance, mais on n'arrive pas à les réunir, à les réunifier. Parce qu'il y a des anormalités. Il y a la théorie des cordes que vous évoquiez avec énormément de dimensions et il y a une réalisation très spécifique de l'holographie Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'holographie depuis quelque temps déjà, mais Hawking avait un système thermique, mais se disait peut-être qu'il ne faut pas se limiter à la théorie des cordes. Ce serait bien d'avoir la gravité et la théorie quantique en même temps, mais on ignore la gravité, on essaye de trouver une description quantique, mécanique, équivalente. Et on essaye d'appliquer cela à un univers qui va modeler, dans lequel on va pouvoir modeler des expérimentations en fonction du sujet sur lequel vous travaillez, des collisions, par exemple, c'est ce que fait le CERN, et vous appliquez cela à de l'holographie. L'objectif, c'est celui-là.
Parce que par rapport à la théorie des cordes, il faut préciser que c'est l'une des approches pour tenter d'unifier la relativité générale et la physique quantique. Et les particules y sont décrites comme des minuscules cordes vibrantes qui posséderaient une supersymétrie le long de leur surface. Et dans la théorie des cordes, l'espace-temps de la théorie des cordes est à 10 dimensions, c'est ça ?
C'est ça. Alors, le nombre de dimensions peut varier, mais effectivement, c'est ce que vous décrivez.
Alors que le nombre de dimensions dans la vie courante, il en existe trois, hein, qui nous sont très familières. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. Et une dimension de temps, c'est pour ça que dans le langage de la physique moderne, l'espace-temps est dit à quatre dimensions. Mais pour l'holographie céleste, il faut imaginer ça différemment, c'est ça ?
Oui, il y a cette notion de dimension quand même, mais on veut utiliser les cadres de la symétrie. C'est un système équivalent avec moins de dimensions, en fait.
C'est-à-dire que pour l'holographie céleste, il faut imaginer l'univers comme un hologramme, c'est-à-dire qu'il est en trois dimensions, mais il manque la masse et donc la gravité.
Alors en fait, même deux dimensions, on pourrait dire.
D'accord.
Mais il y a un continuum entre les deux. Voilà.
Je vous vois sur notre écran mettre vos mains sur les cheveux et je vois bien les efforts que vous faites pour décrire cette discipline qui est en effet tout à fait récente. En effet, c'est un champ d'étude tout à fait contemporain.
Absolument, c'est quelque chose de très nouveau, mais la vraie question, c'est d'essayer de créer des analogies pour des outils et de faire adhérer les gens avec des choses extrêmement concrètes.
Donc,
la vraie leçon derrière tout cela, c'est qu'on essaie de développer des cadres qui sont cohérents. C'est cette notion de cohérence.
Donc,
le travail que moi je mène consiste à d'abord développer un cadre qui ensuite va nous permettre de trouver cette cohérence. Et en ce faisant, vous allez forcément détruire un certain nombre d'hypothèses que vous auriez pu faire, mais aussi d'affirmer d'autres hypothèses. Et on est très souvent guidé par les mathématiques plutôt que par les analogies, et j'aime bien ce travail d'analogie.
Vous évoquez les mathématiques. J'ai lu que vous cherchiez vraiment à construire un dictionnaire mathématique qui unifie relativité générale et théorie quantique des champs. Un dictionnaire mathématique, dans ce sens-là, qu'est-ce que ça signifie ?
Il y a beaucoup de physiciens, théoriciens, qui ont une représentation très comprimée des lois de la nature. Notre idée, c'est de trouver des alternatives et il y a beaucoup d'incohérences. Et j'aime l'idée de trouver des formulations différentes pour arriver à ce cadre cohérent. Donc lorsque nous faisons nos calculs, on est souvent guidé par des observations physiques, on cherche à avoir une théorie derrière, mais et il y a donc beaucoup de calculs mathématiques. Et ce qui est intéressant avec mes descriptions holographiques, c'est que ce que l'on observe, c'est qu'il existe différents types de mathématiques et différents types de manières manière de calculer, est-ce que je veux avoir un hologramme à deux dimensions ou trois dimensions? La structure mathématique n'est pas la même, la description n'est pas la même. Est-ce qu'on parle de structure ou est-ce qu'on ne parle pas de structure? Donc, nous vivons dans une civilisation de temps, de mathématiques, mais j'essaye d'aller plus loin avec ce concept d'holographie.
En tout cas, en 1997, une avancée importante a été réalisée par le physicien argentin Juan Maldacena. Il montre qu'une procédure mathématique permettait de traduire une théorie qui inclut la gravitation en une théorie équivalente, mais sans gravitation, dans un espace qui compte une dimension en moins. Cette procédure est nommée principe de correspondance ADS-CFT. Et ça, c'est votre domaine, Sabrina Passarsky.
Absolument. L'holographie céleste fait exactement cela. On travaille sur de nombreuses structures. Imaginez une boîte ou un silo avec des murs qui sont verticaux de manière infinie. Ce serait une structure différente qu'une boîte où les parois sont différentes. Bon, c'est pas forcément un bon exemple, mais cela change la description dynamique que l'on va faire de l'objet en question.
Parce que la correspondance ADS-CFT est de long à la réalisation la plus fructueuse et la plus étudiée du principe holographique et on continue d'en parler avec le reportage du jour. L'élaboration d'une correspondance holographique dans un espace-temps plat est une approche prometteuse de la gravitation quantique. En parallèle de l'approche céleste, développée par vous, Sabrina Pastersky, il existe une autre approche qui est une spécialité du Centre de physique théorique de l'Institut Polytechnique où vous vous êtes rendue, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, une approche qui repose sur la correspondance dite anti-De Sitter, théorie conforme des champs. Dans ce modèle holographique, l'univers est doté d'un bord où l'espace-temps deviendrait en fait à trois dimensions et non plus quatre, deux d'espace, une de temps et sans gravitation. Celle-ci deviendrait en fait émergente en s'éloignant du bord. Cette idée, née dans les années 90 dans le cadre de la théorie des cordes, s'accorderait bien avec un espace-temps à courbure négative. Or, les observations cosmologiques indiquent qu'au contraire, sa courbure est légèrement positive. L'enjeu est alors de travailler à une extension du principe holographique à des espaces-temps plus proches de notre réalité. Un défi auquel s'attelle le professeur Marios Petropoulos et son doctorant Adrien Fiorucci.
Ce qui va se passer est assez rigolo, en fait. Dans le cas où la correspondance holographique a été testée avec le plus de succès, c'est le cas qu'on appelle anti-De Sitter. Donc, c'est une classe d'espace-temps où la courbure est négative, en fait. Alors, ces espaces-temps...
C'est pas réaliste avec le nôtre.
Exactement. Donc, ça ne correspond pas à notre espace-temps réaliste, effectivement, donc les espaces-temps réels dans lesquels nous vivons, qui auraient plutôt une courbure très légèrement positive, mais nous y reviendrons. Voilà. Ah oui, mais évidemment, si vous la négligez, elle devient plate, et ça, c'est évidemment tout ce que nous faisons, mais nous y reviendrons. Et donc là, effectivement, vous pouvez voir cet espace-temps anti-De Sitter comme un volume enfermé dans un cylindre infini, en fait. Et sur la surface de ce cylindre, donc avec ce processus de compactification conforme de Penrose, donc sur ce cylindre, vous allez avoir une structure géométrique qui est bien connue, en fait, et qui se dédouble en un objet qu'on appelle la métrique du bord, c'est-à-dire c'est un objet mathématique qui va permettre de mesurer les distances intrinsèquement sur le bord, et également un autre objet qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion holographique, qui est en fait un champ encodé dans la métrique de l'intérieur de l'espace-temps, mais qui apparaît de manière assez jolie au bord comme étant le conjugué de cet objet métrique.
Devrait-on ajouter ici, pour clarifier, oui. En effet, tu as parlé d'une métrique qui est une notion de distance sur le bord, oui. Il existe une métrique qui est une notion de distance dans le volume, et c'est oui. Le champ de gravitation, enfin le potentiel de gravitation. Voilà, donc quand on parle de métrique ici à l'intérieur, dans le volume, on entend le champ de gravitation, voilà. Qui se reflète, en fait, sur le bord à travers ces deux éléments qui sont la métrique du bord et le fameux tenseur énergie-impulsion. Ces questions de principe holographique sont l'émanation d'observations qui étaient en rapport avec la théorie des cordes. Et c'est une théorie qui est donc bâtie en dimension 10. Et la question de l'holographie arrive alors en 97, 98, avec ce travail de Maldacena, dans lequel il semble, disons, mettre en évidence
que la théorie des cordes dans cet espace en 10 dimensions, alors si on en compactifie 5, parce qu'il faut compactifier une partie des dimensions et qu'on reste sur un espace à 5 dimensions, sur cet espace à 5 dimensions, il y a quelque chose qui ressemble à un bord, et il se peut, donc le principe holographique traduit que sur ce bord, on pourrait avoir une théorie qui serait duale, équivalente à la théorie des cordes elle-même, qui occupe l'espace pentadimensionnel.
Qui encode ces dimensions.
Qui, d'une certaine façon, contient toute l'information, sous forme d'une théorie des champs définie sur cette surface, qui code toutes les propriétés de la théorie des cordes et qui serait donc duale et équivalente.
Théorie conforme des champs.
Voilà, ben peut-être...
Donc vous avez la gravité dans un volume, mais en fait elle peut être complètement réduite, selon ce paradigme holographique, à la dynamique d'une théorie qui vivrait au bord du volume d'espace-temps que vous considérez.
Et donc on a bien compris qu'il y avait une sorte d'artifice mathématique pour rendre ce cosmos doté d'un bord. Comment on décrit mathématiquement, avec quel type d'équations? Est-ce qu'elles sont relativistes? Est-ce qu'elles peuvent partir des équations d'Einstein pour décrire ce qu'il s'y passe?
Alors, dans le contexte de la...
On pense aux très basses énergies, des ondes gravitationnelles, des moments angulaires, par exemple.
Donc, si votre question est comment les équations dynamiques de la gravité dans le volume se représentent sur le bord, donc autrement dit, quelles sont les traces de l'équation d'Einstein, eh bien, la trace la plus fameuse est que cet objet, en fait, est dit conservé lorsque l'équation d'Einstein est satisfaite. Donc, c'est cette équation qui est, en fait, une manière très jolie et covariante, en fait, d'écrire ce que nous connaissons dans la vie réelle, qui sont les conservations d'énergie. Et donc, ceci, en fait, assorti au fait que cet objet-là est de trace nulle, donc ça veut dire que ceci est une matrice à deux entrées, vous prenez sa trace, elle va s'annuler, eh bien, ces deux équations-là vous disent, déjà au niveau classique de la théorie, que vous avez une théorie conforme des champs sur le bord. Et que cette théorie conforme des champs, en fait, est assortie d'un objet qui encode son énergie et toutes ses charges conservées, si vous voulez, dans ce qu'on appelle tenseur énergie-impulsion. Celui-ci est conservé et est de trace nulle par invariance conforme.
Par rapport à la nécessité d'inventer une autre sorte de physique carolienne, déjà, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça...
Et où elle se situe par rapport à ce formalisme?
Alors,
C'est Jean-Marc
Lévy-Leblond qui avait donné ce nom.
Philosophe des sciences.
Voilà, philosophe des sciences.
Et physicien avant tout.
Physicien, philosophe des sciences. Et un grand ami. Il a mis en évidence l'existence d'une algèbre, comme l'algèbre de Lorentz ou l'algèbre de Poincaré, à laquelle il a donné le nom de Carole, l'algèbre carolienne, parce qu'il faisait référence à Alice au Pays des Merveilles, avec l'idée que dans ce Pays des Merveilles, on peut courir beaucoup, mais on ne se déplace pas. Hein, parce que si la vitesse de la lumière est égale à zéro, et si on continue à penser au principe de relativité où rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, c'est qu'on est condamné à rester immobile. Voilà donc l'idée. Et donc, la question maintenant, c'est comment se fait le lien, finalement, entre ces surfaces et les questions du principe holographique.
Et donc, voilà, donc, comme vous disiez tout à l'heure, dans notre espace-temps, aux échelles cosmologiques, il y a une toute petite courbure, mais qui peut être, aux échelles astrophysiques, négligée. Donc, vous allez prendre toute cette machinerie qui était appropriée pour cet espace-temps de courbure négative, donc non physiquement réalisée, anti-de-Sitter, et vous allez faire tendre cette courbure vers zéro. Si vous faites tendre cette courbure vers zéro, vous allez voir que vous avez toujours une frontière à cet espace-temps, vous avez toujours un bord, mais ce bord, comme Marius l'a expliqué maintenant, eh bien, il est composé d'hypersurfaces du genre lumière. Donc ici, nous avons, eh bien, le diagramme de Penrose, encore lui, dis donc, de l'espace-temps absolument plat, qui est en fait un carré sur pointe. Et chaque côté de ce carré est en fait donc une droite à 45 degrés qui décrit une portion de ce bord du genre lumière. Voilà, donc en fait, des rayons de lumière vont...
Il remplace celui que nous avons tracé ici à gauche. Sauf que ce cylindre n'est plus, en fait, puisqu'il est maintenant remplacé par des surfaces à 45 degrés, c'est-à-dire des hypersurfaces du genre lumière, comme elles apparaissent dans la compactification conforme d'un espace asymptotiquement plat.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour se frotter à la science en train de se fabriquer. C'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Sabrina Pasterski, votre réaction à l'écoute de ce reportage ?
J'aime beaucoup, je ne suis pas certain d'avoir reconnu toutes les voix, mais l'approche carolienne qui est décrite, effectivement, les deux côtés, cette dualité, ce qu'il décrivait, en fait, c'est imaginons, on imagine toujours la même direction espace-temps. Imaginez, vous êtes envoyé quelque part, vous essayez d'envoyer un signal à quelqu'un qui est assis en face de vous. Si vous n'arrivez pas à envoyer ce signal, parce que tout ce que vous dites ou tout ce que vous faites est restreint, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez envoyer aucun message. Les directions espace-temps sont extrêmement limitées et c'est vraiment la différence essentielle dans les deux descriptions. On parle du même objet, mais ce qui change, c'est l'espace-temps.
Eh bien, nous, on continue de parler de vous. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et la voix de Sabrina Pasterski. On a parlé, on a évoqué déjà votre grande couverture médiatique, le classement Forbes. Vous avez été aussi qualifié de nouvel Einstein d'un point de vue personnel. Qu'avez-vous pensé de cette qualification ?
Alors, premièrement, je dis ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses sont arrivées lorsque j'étais très jeune. Et je pense qu'il y a une différence. Lorsque vous cherchez à développer un produit, la presse peut être extrêmement utile. J'avais des mentors qui ont pu voir mes travaux, les résultats. Ils trouvaient ça très cool à l'époque. Et c'est vrai que très rapidement, quand vous travaillez dans le domaine des sciences, très rapidement, vous vous faites une image et vous attirez l'attention. Finalement, il est difficile aussi de contrôler ce que les gens vont dire de vous, comment les gens parlent de vous. Et au cours de ma carrière, cela m'a parfois inquiété un peu, puisqu'évidemment, je ne suis pas à la hauteur de cette réputation. J'essaye simplement de faire mon travail. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je veux éviter ou chanter cela. Je pense nous représentons l'héritage de nos ancêtres qui ont travaillé sur ces mêmes sujets. Nous ne faisons que poursuivre, continuer leur travail de manière modeste et en essayant d'apporter notre propre pierre à l'édifice. C'est pour ça que je travaille actuellement à l'Institut Périmétaire, parce que dans cet endroit, on m'a permis de réfléchir à la physique théorique et où finalement, on est beaucoup moins exposé, notamment aux médias, et où on fait un vrai travail, on fait notre travail. Mon travail consiste à accélérer la science, et c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce qui m'intéresse. Et on en fait tous partie. Ces questions nous touchent toutes et tous. Et après, parfois, effectivement, ça attire l'attention, notamment des médias.
Vous voulez dire que la notoriété, c'est justement quelque chose qui peut servir des intérêts qui vous sont chers, comme par exemple la place des femmes en sciences, et notamment en physique ?
So again, I don't know if I would call it fame because it's a random thing. It'll go away at some point.
Vous savez, les choses vont très vite et vous pouvez être dans la lumière, vous pouvez faire l'objet d'énormément d'articles dans les médias et puis ça passe. Je pense que oui, si ça peut servir des causes que je soutiens et d'autres, c'est très bien.
Je m'interrogeais également sur votre point de vue par rapport justement à cette mode plutôt anglo-saxonne d'ailleurs de starification des scientifiques. Par exemple, chaque année dans Nature, on a un classement des personnalités scientifiques de l'année. Comment vous regardez ça ?
I think that there should be a way for the the field should be using that at some extent. I don't know if I was if you were at a company, right?
Pourquoi pas les entreprises sont très douées, elles arrivent à communiquer, elles ont au sein des entreprises, il y a les meilleurs scientifiques. Moi, je ne me considère pas comme étant, comme faisant partie des meilleurs scientifiques. Je pense que j'ai un rôle à jouer. Et lorsque vous avez des gens qui ont des compétences très particulières, il peut être intéressant de les mettre en avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la science est devenue extrêmement populaire. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile lorsque vous êtes vraiment mis en lumière de gérer votre image. Ce que je ne veux pas, évidemment, c'est de me retrouver à ne faire plus que cela. Ce qui m'intéresse avant toute chose, ce sont mes travaux. C'est véritablement ça qui m'intéresse et qui compte pour moi. Mais, vous l'avez dit, je pense qu'il y a aussi une opportunité. Et je pense que la physique peut proposer énormément de choses. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à la physique. Et ça, c'est très bien, parce que la physique soulève aussi des questions de nature beaucoup plus philosophique. Et c'est peut-être aussi ça qui m'intéresse. Il y a un lien très fort entre la physique et la philosophie. Est-ce que je fais partie des meilleurs? Je ne me pose pas la question. Je ne pense pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail, c'est d'essayer de trouver des réponses à certaines questions et à certaines hypothèses. Et c'est ce que permet de faire la science. Certains scientifiques sont capables de parler, de vulgariser en utilisant des analogies, en expliquant voilà pourquoi je fais telle et telle chose. D'autres sont moins capables de le faire. On est sur des notions qui sont extrêmement compliquées, la compression des champs, par exemple. Voilà, j'essaye de faire les choses à mon niveau. Il y a de nombreuses approches pour communiquer à propos de la science. Il y a aussi le monde universitaire qui fait un gros travail dans ce domaine.
Je vous pose une dernière question, Sabrina Pasterski. Vous parlez de faire votre travail. Voilà, vous êtes américano-cubaine, vous travaillez depuis le Canada. Comment vous regardez justement la situation aux États-Unis concernant la politique scientifique de l'administration Trump?
Je suis très heureuse d'être au Canada. Voilà ce que je peux vous dire. Je reste un peu à l'écart de ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je ne suis pas certaine que des commentaires négatifs permettraient de faire avancer le sujet. La vraie question que je me pose, c'est quel est l'avenir de la recherche scientifique, notamment de la recherche scientifique universitaire. Les universités ont deux rôles importants à jouer. C'est la formation et c'est la recherche. Et je pense que les deux sont particulièrement importants. Je pense qu'il en est de même en France. Il y a parfois peut-être une déconnexion entre le monde politique et ce que nous faisons aujourd'hui sur le terrain, à savoir dans la recherche. Je continue à penser que la recherche est particulièrement importante. Il y a aussi ce sentiment que parfois la science ne va pas assez vite, que nous ne travaillons pas assez rapidement. Les scientifiques sont aussi très limités d'abord par leurs ressources. Les ingénieurs font face aux mêmes difficultés lorsqu'ils cherchent à développer des produits, de nouveaux concepts. Aujourd'hui, nous essayons de rendre l'ensemble de nos travaux, de les mettre à la disposition, notamment d'entreprises, d'universités, afin de pouvoir continuer la recherche. Donc, je pense que nous avons aujourd'hui plus que jamais l'opportunité de travailler ensemble, de collaborer, et je continue à y croire. Nous verrons. J'espère qu'on aura plus de coopération internationale à l'avenir. Ça, c'est une certitude. Et la question de la Big Tech aussi, de la Big Tech et du monde universitaire et leur capacité à travailler ensemble.
Eh bien, un grand merci, Sabrina Pasterski, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci beaucoup.
Bye, thanks. Au revoir.
Et tout de suite, comme chaque jour, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, c'est la chronique avec science.
Comment un fossile pas comme les autres peut-il nous renseigner sur les chaînes alimentaires du passé? Quand on pense fossile, on pense au, une patte, une côte, un orteil, une vertèbre, un crâne, bref, un os. Dans des conditions très particulières, et c'est pour cela que les fossiles sont relativement rares, l'os va se minéraliser, il va se transformer en pierre. C'est comme cela que les corps entiers ou des morceaux d'animaux se retrouvent imprimés dans la roche et perdurent ainsi des centaines de millions d'années. Ces squelettes nous donnent énormément d'informations sur la taille de l'animal, son espèce et sa manière de se déplacer. En revanche, ils livrent peu d'indices sur la vie vraiment quotidienne des animaux, et notamment sur ce qui manger. Bien sûr, on peut regarder les dents, mais cela ne donne qu'une idée assez approximative de leur alimentation. Mais il existe une autre catégorie de fossiles particulièrement intéressante pour comprendre quoi et qui était au menu, les coprolites, des excréments fossilisés, et les régurgitalites, dont je n'ai pas besoin de vous faire la traduction. Arnaud Rebillard est paléontologue au Musée d'histoire naturelle de Berlin.
Tout ce qui est régurgitalite et coprolite font partie d'une famille que l'on appelle les bromalites. Les bromalites, ce sont donc tous les restes fossilisés qui sont liés à la digestion. Par exemple, les coprolites, ce sont des fossiles qui ont eu une histoire un peu compliquée. Au début, les coprolites, je parle d'eux en particulier de par leur histoire un peu plus complète, ont été longtemps un peu considérés comme des fossiles insolites ou des fossiles un peu marrants que l'on met dans des cabinets de curiosité. Pour très longtemps, ce n'était pas considéré vraiment comme des objets scientifiques qui pouvaient vraiment nous apporter beaucoup de données sur des sites fossilifères, sur des faunes du passé. C'était vraiment quelque chose des curiosités. Et en fait, ce sont vraiment lorsque les scans 3D en particulier se sont développés dans les décennies récentes, où là, nous avons pu accéder à tout le contenu dans ces coprolites sans avoir à les détruire.
Pour analyser ce contenu, il fallait le découper en fines lamelles, ce qui détruisait l'échantillon. De plus, contrairement aux coprolites, les régurgitalites n'ont pas de forme caractéristique, ce qui les rend difficiles à reconnaître parmi d'autres fossiles. Depuis une vingtaine d'années, le développement des scanners 3D, et en particulier de la microtomographie, a profondément changé la donne. Ces techniques permettent aujourd'hui d'explorer ces fossiles tout en conservant leur intégrité. Ils sont ainsi devenus de véritables archives du régime alimentaire des animaux passé, et c'est un nouvel exemple du genre qui est décrit dans cette étude parue dans Scientific Reports. Cette découverte prend place sur le site de Bromacker en Allemagne, un gisement connu depuis plus d'un siècle pour ses fossiles du Permien. Les scientifiques ont mis au jour un fossile justement assez étrange, un amas très compact d'os qui correspondrait à un gros repas rejeté par un prédateur il y a 290 millions d'années.
Trois différents animaux à l'intérieur, donc trois restes d'animaux de différentes tailles et de différentes espèces. Donc nous avons par exemple deux petits reptiles, que nous avons Turingotyris, qui faisait environ 9 cm environ. Nous avons Oedibamus, qui faisait dans les 10 cm de long, sans compter la queue. Oedibamus étant un des fossiles très reconnus de Bromacker, de par le fait qu'il était bipède. Et nous avons aussi un tibia, une fibula, donc les os des... de pattes postérieures d'un gros amphibien, relativement parlant. Donc c'était un animal un peu trapu, quadrupède et vivant sur la terre ferme, qui faisait environ 60 cm de long, sans compter la queue. Donc nous avons pu identifier trois animaux différents, et c'est aussi là, lorsque nous avons pu reconnaître ces différents taxons dans cette régurgitation, que nous avons posé la question de, voilà, peut-être que cet amas osseux a été le résultat de l'ingestion de plusieurs proies et ensuite de la réjection de ces mêmes proies.
Mais qui est l'auteur de ce vomi fossile? L'étude avance deux suspects, les deux seuls prédateurs des environs capables d'avaler des proies aussi volumineuses. Il s'agirait de dimétrodons ou de tambacarnifex, deux grands carnivores qui vivaient en Allemagne il y a près de 300 millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que cette découverte va à l'encontre d'une idée reçue selon laquelle les grands carnivores se nourrissent exclusivement de grosses proies. Ici, ils semblent manger des animaux de toutes les tailles, on parle donc d'un comportement alimentaire opportuniste. Et surtout, cette régurgitation est la plus ancienne jamais identifiée sur un milieu terrestre. Elle montre à quel point les bromalites sont essentiels pour reconstituer les chaînes trophiques du passé, autrement dit, le qui mange qui. La suite, ce sera de continuer les fouilles à Bromacker, qui ont lieu chaque année, mais aussi de réexaminer les spécimens oubliés dans les musées, ces anciens objets de cabinets de curiosité, pour qu'ils livrent enfin tous leurs secrets.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science QFD. Merci à Olivier Bétard à la réalisation. Merci à Ludovic Auger à la technique aujourd'hui et à la traduction Bartaben. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.